c'est l'heure du journal de Camille Manière. Bonjour Camille.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. La révolte s'ancre dans la durée en Iran où la nuit dernière a vu de nouvelles violences en marge de manifestations. À Téhéran et dans le centre du pays, déjà 21 morts au moins en 5 jours de protestations. Nous ferons le point sur la situation avec Éric Biegala et nous entendrons le géographe Bernard Ourcade sur le rôle joué par les États-Unis aux sources de cette mobilisation. Elle a 30 ans, est originaire de Bretagne et est présentée comme l'une des principales recruteuses de Daesh en France. Émilie Koenig aurait été arrêtée ces derniers jours par les milices kurdes. Son portrait, son parcours dans ce journal, ce sera avec Florence Turm. Et puis le gouvernement français face à des cas de violence contre des policiers dans les quartiers populaires de région parisienne. Emmanuel Macron parlait hier d'un lynchage contre cette policière rouée de coups la nuit de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne. Ce matin, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, évoque une société de la violence qui continue à exister dans certains quartiers. Nous allons questionner l'attitude prise par l'exécutif sur ces questions dans ce journal. En Corse, la nouvelle collectivité territoriale unique installe son assemblée cet après-midi. C'est en inaugural et discours en langue corse pour son président Jean-Guy Talamoni. Les nationalistes sortis victorieux des urnes sont à l'épreuve du pouvoir, nous dira Cyril Graziani depuis Ajaccio. Et puis dans notre séquence interview, nous nous interrogerons sur ces référents alerte installés obligatoirement dans chaque entreprise de plus de 50 salariés par la loi Sapin 2, disposition qui est entrée en vigueur hier. Il s'agit de protéger les lanceurs d'alerte. Nous en parlerons avec notre invité, le magistrat Eric Halt, vice-président de l'association Anticor.
La bataille est culturelle pour mon premier, Thierry Mandon. La bataille est intellectuelle pour mon second, Raphaël Glucksmann. Voici les deux invités de la deuxième partie de la Grande Table à partir de 12h55. Des nouveaux magazines, un nouveau magazine littéraire et un nouvel hebdomadaire, l'Hebdo, en kiosque ce mois-ci. On va se demander comment la presse peut aujourd'hui se renouveler et rentrer de plein pied avec ces nouveaux formats dans cette bataille médiatique à suivre donc.
Méfions-nous du risque d'escalade de la violence en Iran. C'est la Turquie voisine qui alertait ce matin après une nouvelle nuit de manifestations parfois violentes à Téhéran et à travers tout le pays. 5 jours donc déjà que s'exprime ce mécontentement économique et politique d'une partie de la population iranienne dans les provinces et puis désormais dans la capitale. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour Camille.
Chef du service international de France Culture, vous suivez pour nous l'évolution de la situation sur le terrain en Iran. On dénombre déjà au moins 21 morts dans les troubles de ces derniers jours dans les rangs des manifestants comme dans ceux des forces de l'ordre.
Oui, ces bilans sont donnés par les médias ou les institutions officielles type ministère de l'Intérieur et ils ne sont pas forcément exhaustifs ni même d'ailleurs vérifiables. Ce qu'il y a de certain, c'est que les manifestations des dernières heures en Iran ont pris un tour souvent nettement plus violent que ces derniers jours. Si dans les grandes villes, notamment dans la capitale Téhéran, les protestations d'hier soir n'ont été que sporadiques, probablement du fait du lourd déploiement de forces qui quadrillaient le centre-ville, dans les villes moyennes, en province, les manifestations se sont poursuivies et ont souvent tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Affrontement à coups de pierre ou de bâton, mais il y a eu aussi des échanges de coups de feu. Dans le centre du pays, à Najafabad, à côté d'Ispahan, les manifestants ont ouvert le feu avec leurs fusils de chasse, manifestement. On compte au moins 2 morts, un officier de police et un membre des gardiens de la Révolution. Dans une autre agglomération, elle aussi mitoyenne d'Ispahan, ce sont 6 manifestants qui ont été tués par balle alors qu'ils tentaient de prendre d'assaut un poste de police, rapporté ce matin à la télévision d'État. Les vidéos postées cette nuit et ce matin sur les réseaux sociaux par les manifestants montrent également des postes de police, des bâtiments affiliés au régime ou encore des agences bancaires partiellement voire entièrement détruits par des incendies et ce dans une bonne demi-douzaine de provinces différentes, en général dans des petites villes. Le gouverneur adjoint de Téhéran a par ailleurs indiqué ce matin qu'il avait été procédé à près de 450 interpellations depuis jeudi dernier, une centaine hier à Téhéran. Ces violences et ces arrestations ne semblent pas devoir ralentir le mouvement. Ce matin, sur les réseaux sociaux circulait encore un appel à la grève général pour ce mardi, invitant les fonctionnaires d'État à s'y joindre, ainsi qu'un appel à d'autres manifestations, dont plusieurs dizaines de villes du pays. Manifestations convoquées pour cet après-midi 17h, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Et il est à craindre que les échauffourées de la nuit dernière se répètent à nouveau ce soir.
Éric Biegala, merci. Au chapitre des réactions internationales à ces tensions en Iran, on a eu Donald Trump qui, dès hier, tweetait que, selon lui, le temps du changement est venu pour l'Iran. Alors c'est vrai que la critique des autorités iraniennes tombe à point nommé pour les États-Unis, qui en maintenant des sanctions économiques et bancaires fortes contre le pays retardent le réveil de l'économie iranienne tant attendu par la population. C'est l'analyse du géographe spécialiste de l'Iran, Bernard Ourcade. Il était tout à l'heure l'invité des matins de France Culture et il appelle l'Europe à peser dans ce dossier iranien.
Les États-Unis profitent du fait que le dollar est la seule monnaie utilisable. Donc il dit je n'autorise pas à négocier en dollars. Donc ça bloque tout. Mais c'est la politique de... parce que je m'appelle Lyon, je suis le Lyon, je fais ce que je veux.
Mais là-dessus, les Européens, finalement, ne peuvent pas servir de contre-mesure.
Mais il y a d'autres politiques, il y a moyen de faire pression, nos Américains sont nos amis, ils ont été invités au 14 juillet, comme M. Poutine à Versailles. Bon, il y a une politique à mener. Et quand le président Macron décide, quand Trump veut bloquer l'accord sur le nucléaire, il dit « je vais en Iran », c'est une décision politique très forte, qui a beaucoup ému, et c'est pour cela qu'un certain nombre de gens aujourd'hui voudraient que ça n'ait pas lieu ou que ce soit reporté, pour éviter que ça se passe. Et donc, le fait de maintenir une politique ferme, digne et équilibrée et rationnelle vis-à-vis des États-Unis et de l'Iran est, je crois, dans l'intérêt de tout le monde, parce que l'Iran, effectivement, n'oublions pas, a été sur le terrain, je le répète, le principal acteur qui a fait tomber Daesh avec les Kurdes.
Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, il était ce matin chez Guillaume Erner sur France Culture.
Nous partons à présent en Syrie, Camille Magnard, où semble terminer le parcours djihadiste d'Émilie Koenig. Cette Bretonne âgée de 30 ans est inscrite depuis 2015 sur la liste noire américaine des terroristes internationaux. Elle est considérée comme l'une des recruteuses les plus actives de Daesh.
Émilie Koenig, c'est vrai, qui selon une source proche du ministère des Affaires étrangères, aurait été arrêtée par les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Elle avait ces dernières années fait des allers-retours entre le Moyen-Orient et la France, où elle avait laissé ses enfants, Florence Turme.
Oui, Émilie Koenig quitte la France pour la Syrie au printemps 2012. Son mari y a rejoint un groupe terroriste qui ralliera plus tard l'État islamique. Lui-même sera tué lors des combats. Fille de gendarme, la dernière d'une fratrie de 4 enfants, c'est au contact de son premier époux, un délinquant connu pour trafic de drogue, qu'elle se convertit à l'islam à l'âge de 17 ans. Émilie Koenig porte le niqab, se radicalise au contact du groupe Force Analysa, distribue des tracts appelant au djihad près de la mosquée de l'Orient et finit par quitter la Bretagne pour Paris. Un premier départ en Syrie donc en 2012, un retour en France en 2013 pour tenter de récupérer, mais sans succès, ses deux fils, confiés à leur grand-mère et à qui elle écrit à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux « N'oubliez pas que vous êtes musulman ». La vidéo qui devient, si l'on peut dire, sa marque de fabrique. Sur une autre, elle pose avec un fusil à canon scié sans que l'on puisse aujourd'hui lui reprocher d'avoir commis elle-même des actions terroristes, mais avec des incitations à en commettre sur le territoire français ou à s'en prendre aux femmes de soldats déployées au Mali. À cela s'ajoute un rôle de propagande et de recrutement qui lui vaut en septembre 2015 de figurer sur la liste des combattants terroristes étrangers par Washington. Elle est aussi la première femme ainsi désignée par les autorités américaines. Et depuis, réputée pour être la Française de Daesh la plus recherchée, même si à ce stade, le parquet de Paris ne communique ni sur son lieu de détention, ni sur un éventuel transfert. Émilie Koenig serait aux mains des Kurdes dans un camp de réfugiés avec une dizaine d'autres femmes françaises dont Emmanuel Macron a indiqué qu'il conviendrait d'examiner la situation au cas par cas.
Un portrait dressé pour nous par Florence Turme. Merci à vous.
Midi 38 sur France Culture. Une nouvelle agression de policiers hier soir en région parisienne. Elle a eu lieu à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et fait suite à celle qualifiée de lynchage par Emmanuel Macron, où deux agents de police avaient été roués de coups à Champigny-sur-Marne la nuit de la Saint-Sylvestre, Camille.
Et nous voilà donc apparemment face à deux faits divers qui semblent ouvrir une séquence politique consacrée à la délinquance dans les quartiers populaires. Ce matin, chez nos confrères d'Europe 1, Gérard Collomb parlait d'une société de la violence qui continue à exister, selon lui, en France. Le ministre de l'Intérieur qui a son idée, apparemment, sur les causes de ce phénomène et les moyens d'y remédier.
Je crois que ce sont ces quartiers qu'il faut changer. J'étais à Champigny hier. Lorsque l'on voit ces grandes barres, on se dit qu'il y a un aspect totalement inhumain qui ne peut générer que de la violence. Donc ce sont des réformes de fond qu'il faut effectivement mener.
Politique de la ville,
politique
c'est
l'urbanisme, de la ville, politique Agence nationale de rénovation urbaine. Je crois que ces quartiers ne peuvent pas rester comme ça. Vous voyez, on a eu un certain nombre de quartiers qui, au cours des 10-15 dernières années, se sont paupérisés, ghettoisés, et où les gens, finalement, vivent plutôt côte à côte. Demain, ils peuvent être face à face. Donc, c'est cette mécanique infernale qu'il faut briser.
Voilà pour les déclarations de Gérard Collomb sur Europe 1 ce matin. Les tours de béton comme cause des violences dans les classes populaires. Voilà une analyse un peu rapide et simpliste, selon le sociologue, professeur à l'Université Paris 8, Pierre Gilbert, qui a étudié cette logique de la rénovation urbaine dans l'agglomération de Lyon, dirigée pendant des années par ce même Gérard Collomb.
Cette déclaration, elle apparaît un peu, de premier abord, un peu naïve, puisqu'elle attribue des comportements de violence à la seule architecture. En réalité, on la comprend bien quand on la resitue dans l'histoire des politiques de la ville que Gérard Collomb, parmi d'autres, hein, a mis en œuvre dans l'agglomération lyonnaise. Cette représentation, en fait, elle consiste à voir dans l'architecture et dans l'urbain la cause des problèmes sociaux de ces quartiers, et elle renvoie finalement aux transformations du regard sur ces quartiers qui s'est produite dans les années, au tournant des années 80 et 90, qui tend à considérer que les causes des problèmes sociaux dans ces quartiers ne sont plus des inégalités socio-économiques, mais avant tout la question urbaine, et notamment l'architecture, ainsi que le regroupement des pauvres et des immigrés dans ces quartiers-là. Alors c'est une conception qui est, il est vrai, complètement réductrice hein, de des situations que connaissent ces quartiers, mais elle s'explique très bien hein, par le discours de Gérard Collomb dans le cadre de la légitimation de la politique de rénovation urbaine qui transforme en profondeur ces quartiers depuis le début des années 2000, hein, et qui vient remplacer cette architecture des grands ensembles, de grandes barres et de grandes tours, par une architecture plus banale, qui vise à faire venir dans ces quartiers des ménages de classe moyenne, plutôt blancs, à partir de l'idée hein, que c'est le regroupement de populations pauvres dans ces quartiers qui serait la cause des difficultés sociales de la population.
Le sociologue Pierre Gilbert, joint pour France Culture par Mélanie Juvet. Alors on l'a dit, c'est les violences de la Saint-Sylvestre qui ont remis cette question des quartiers populaires au cœur de l'agenda politique. Depuis hier, le gouvernement tente d'affirmer une position sur cette thématique sur laquelle Emmanuel Macron, comme Gérard Collomb, semble plutôt marcher sur des œufs pour le moment, Stéphane Robert.
Oui, c'est la première fois en quelque sorte que la thématique de la sécurité surgit comme ça dans l'actualité et que le nouvel exécutif y est concrètement confronté. Cette question avait été quasiment absente de la campagne présidentielle. Et depuis juin dernier, ce sont surtout les questions économiques, environnementales et internationales qui ont occupé l'agenda politique. Et on sent comme une sorte de désarroi dans les propos du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Alors bien sûr, le discours est ferme, c'est inadmissible, et vis-à-vis de ceux qui ont fait ça, on s'en occupe, a dit le ministre, on va les retrouver. Mais dans les réponses à apporter, ce que met en avant Gérard Collomb, c'est la mise en place de cette nouvelle police dite de la sécurité au quotidien, nouvelle forme de la police de proximité. Le problème est que celle-ci doit faire l'objet d'une expérimentation dans certains quartiers, à partir de ce mois-ci, du mois de janvier, avant sa généralisation. Et puis il pointe aussi, on vient d'en parler, le nécessaire réaménagement architectural des quartiers difficiles. Seulement ça, le phénomène de ghettoisation dans les grands ensembles en périphérie. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il est pointé du doigt et que des politiques sont mises en œuvre pour essayer d'y remédier. C'est là qu'on sent une forme d'impréparation et de désarroi. Le ministre met en avant des réponses de moyen et long terme. Alors, pour le moment, il bénéficie d'une certaine mansuétude, notamment du côté des syndicats de police. Mais on voit poindre dans les réactions des revendications à coloration plus politique. Le syndicat Alliance, notamment, demande le retour des peines planchers. Et du côté de Les Républicains, Laurent Wauquiez fustige la nouvelle police de proximité qui, selon lui, ne réglera rien.
Stéphane Robert, merci à vous. Vous parliez justement des réactions des syndicats de police. Nous sommes avec le magistrat Eric Alt, qui va être notre invité dans la séquence interview dans quelques instants. Bonjour à vous.
Bonjour.
Sur cette question de la justice, qui est un petit peu, dans ces moments de crispation, mise en cause par les syndicats de police, notamment, on parle de laxisme parfois dans les peines prononcées. Est-ce qu'il y a une remise en cause à mener du côté, justement, de la justice, selon vous, ou est-ce qu'il faut se méfier des emballements dans ces séquences sécuritaires?
Bon, je pense qu'au-delà de la solidarité évidente avec les deux policiers qui ont été victimes ce week-end, il faut rappeler que la peine encourue, au minimum, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours sur agent de la force publique, la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement. Et ensuite, la justice n'a pas la réputation d'être laxiste s'agissant des violences commises sur les policiers. Parfois, et lui reprocher un laxisme sur les violences policières, mais certainement pas sur les violences commises contre des policiers.
Eric Alt, on va vous retrouver donc dans quelques minutes sur la question de la lutte contre la corruption et pour la transparence en entreprise. Je salue également Raphaël Glucksmann, invité Bonjour. De la deuxième partie de la Grande Table. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ce sont des sujets, notamment de voir comment l'exécutif se positionne sur ces questions très sensibles de sécurité et de quartier populaire qui, pour l'instant, vous donne à voir un peu une avancée, en tout cas, de la part du gouvernement, un positionnement?
C'était une forme d'impensé, parce que le discours de Macron pendant la campagne électorale était un discours qui s'adressait aux individus, c'est-à-dire que je vais vous aider à réussir, si vous voulez réussir, d'où que vous veniez. Et là, il y a des problèmes sociaux qui dépassent les individus. Et un problème qui est fondamental, qui est l'absence de mixité sociale dans ces quartiers, et plus généralement en France. Et donc la politique de mixité sociale d'Emmanuel Macron, on l'a pas encore vu, on l'a pas encore saisi, on l'a pas encore entendu. Et à mon avis, il est urgent pour lui d'avoir ce discours-là et un projet qui soit un projet, bien sûr, d'appliquer la loi de manière extrêmement ferme quand des énergumènes tentent de lyncher une policière, mais aussi d'avoir une politique global à l'égard des quartiers, pas simplement destiné aux individus qui s'en sortent et qu'on va aider à s'en sortir.
Raphaël Glucksmann, merci. On vous retrouve tout à l'heure pour parler du nouveau magazine littéraire.
Effectivement. L'actualité politique en France, pour l'instant, se fera aussi cet après-midi en Corse et en langue corse, qui plus est.
Oui, c'est dans cette langue que va s'exprimer Jean-Guy Talamoni, le président de la nouvelle Assemblée Corse, qui se réunira pour la première fois à 14h30. Elle est issue, cette Assemblée, de la fusion des deux départements et de la région Corse au sein d'une unique collectivité territoriale. Un remembrement administratif qui a bénéficié, on s'en souvient, lors des dernières élections au parti nationaliste corse. Nous sommes en ligne avec Cyril Graziani, en direct d'Ajaccio. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors, quelle que soit la langue utilisée tout à l'heure, les discours prononcés dans cette assemblée vont être très écoutés, depuis Paris notamment.
Alors, tous les regards ne seront pas braqués sur eux, n'exagérons rien, mais suffisamment pour envoyer des messages forts à Emmanuel Macron. Selon les nationalistes, depuis leur victoire en décembre dernier, l'Élysée n'a pas fait un seul pas vers eux. Gilles Simeone a appelé le président de la République à parler rapidement sur sa vision de la Corse, c'était ce matin. De son côté, lui, le nouveau président de l'exécutif, ne manquera pas de rappeler ce pourquoi, selon lui, les Corses l'ont élu. Une plus grande autonomie, y compris fiscale, la co-officialité de la langue corse, un statut de résident et l'amnistie des prisonniers qui ici sont qualifiés par les nationalistes de politiques. Il y a 2 ans, lors de leur intronisation, Gilles Simeone et Jean-Guy Talamoni avaient parlé en français et en corse. Ils vont renouveler l'expérience aujourd'hui, c'est sûr. Et surtout, ils avaient tous prêté serment sur un vieux livre, souvenez-vous, daté du XVIIIe siècle, une cérémonie limite incantatoire qui avait fait couler beaucoup d'encre, surprendre pour se faire entendre. En la matière, les nationalistes ne manquent pas de ressources et ils comptent bien le rappeler cet après-midi. Et preuve que le dossier corse ne laisse pas indifférent Emmanuel Macron, cet après-midi, en même temps que la mise en place de la collectivité unique, le chef de l'État recevra Gérard Collomb et la ministre chargée du dossier corse, Jacqueline Gourault. Coïncidence, certainement pas. L'Élysée confirme en effet que ce dossier sera abordé lors de cet entretien. Et d'ailleurs, Jacqueline Gourault se rendra sur l'île dès ce vendredi.
Cyril Graziani, merci. Vous étiez en direct pour nous depuis Ajaccio. À 12h passées de 47 minutes sur France Culture, nous ouvrons la séquence interview de ce journal sur la nécessaire protection des lanceurs d'alerte en France. Ces salariés d'entreprise ou d'administration qui se mettent en danger en dénonçant de l'intérieur les malversations de leurs employeurs. C'était hier qu'entrait en application une mesure de la loi Sapin 2 de lutte contre la corruption et pour la transparence, une mesure qui crée un statut pour les lanceurs d'alerte et qui crée également, qui rend obligatoire la mise en place d'une procédure de recueillement de l'alerte sécurisée et anonyme en entreprise. On en parle avec notre invité, mais avec vous également, Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Depuis hier, donc, si vous travaillez dans une entreprise de plus de 50 salariés ou une commune de plus de 10 000 habitants, votre employeur a dû nommer un référent alerte. C'est quoi son rôle, Catherine ?
Mais la nouveauté, c'est que désormais, toute personne qui veut signaler de manière intéressé et de bonne foi un acte délictueux ou un préjudice grave pour l'intérêt général doit avoir quelqu'un à qui parler. Et c'est ce nouveau référent alerte, c'est la première personne auquel doit s'adresser quelqu'un soucieux de donner l'alerte. Donc charge à ce référent de mener l'enquête et de voir s'il y a matière à agir. Tout cela dans le respect de la confidentialité. La brisée est passible de 2 ans de prison et de 300 000 euros d'amende. Ça, c'est la première étape de la procédure instaurée par la loi. Si aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable, dit la loi, alors l'alerte peut être portée hors de l'entreprise auprès d'une autorité compétente dans le secteur. Et c'est seulement après cela, là encore faute de réponse, qu'un lanceur d'alerte peut signaler le problème publiquement via les médias ou les associations. Quelqu'un qui respecte ces étapes est protégé par la loi de mesures de rétorsion ou d'un licenciement. Et s'il y a un danger imminent, il est possible de sauter toutes ces étapes. Reste que cela n'empêchera certainement pas les procédures judiciaires contre les lanceurs d'alerte.
Voilà pour le dispositif donc mis en place par la loi Sapin 2 en vigueur depuis hier. On en parle donc avec Eric Hall, magistrat, je le disais tout à l'heure, vice-président d'Anticor, organisation très engagée dans les questions de lutte contre la corruption. Ça faisait partie de vos préconisations. C'est quelque chose qui vous semble satisfaisant face au phénomène actuel. On a vu des lanceurs d'alerte dans beaucoup de domaines, bancaires notamment.
Mais d'abord, la loi Sapin 2, dans son volet concernant les lanceurs d'alerte, est un peu une coproduction de la société civile et du législateur sur ce point, ce qui est assez rare. Ensuite, c'est vrai que le législateur a encadré le signalement de faits délictueux. ou le signalement de menace grave pour l'intérêt général. Il l'a encadré. Il faut parler d'abord à son supérieur hiérarchique, mais c'est souvent un étouffeur d'alerte, ou à un référent. Et c'est ce référent qui est créé par un décret d'avril dernier et qui doit être mis en place aujourd'hui, enfin ou hier. Reste à savoir la façon dont les collectivités, dont les entreprises vont désigner ce référent. Enfin, comment ils vont désigner ce référent ?
Catherine Petillon.
Précisément, on voit que la philosophie de la loi, c'est d'essayer d'abord de garder en interne l'alerte. Et donc l'effectivité de cette alerte va dépendre de qui est nommé comme référent.
Effectivement, ce référent doit disposer par son positionnement de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour sa mission. Il n'a pas forcément de pouvoir d'enquête. Il a un pouvoir d'accompagnement, un pouvoir de formation, prendre un certain nombre d'initiatives. Et il y a une culture qu'il faudra effectivement bâtir à partir de ces nominations qui seront des personnalités très diverses.
Mais alors, nominations qui vont être faites par les entreprises elles-mêmes ?
Qui seront faites par les entreprises ou par les collectivités. Mais il est sûr que si cette personne n'inspire pas confiance, le dispositif ne pourra pas fonctionner. Ou le lanceur d'alerte sera légitime à aller directement devant une autorité administrative ou judiciaire, ou éventuellement à saisir le défenseur des droits, puisque le défenseur des droits peut être saisi pour donner un conseil dans tous les cas de figure.
Parce que précisément, on imagine que si l'enjeu de l'alerte est grand, assez probablement l'entreprise ne donnera pas suite. Est-ce que du coup, on peut dire qu'il y aura un niveau d'importance de l'alerte au-delà duquel, finalement, ça changerait assez peu de choses pour les lanceurs d'alerte en entreprise ou dans des collectivités ?
Effectivement, pour des faits de moyenne importance, on remet en cause une certaine culture de l'opacité. Donc, on responsabilise les salariés ou les fonctionnaires. On va leur dire, attention, la hiérarchie, l'ordre hiérarchique ne suffit pas. Vous aussi, vous pouvez être responsable si vous n'avez pas donné l'alerte. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est vrai qu'au-delà d'un certain niveau, il y a, par exemple, la raison d'État qui va s'imposer pour des faits. Par exemple, celui d'Edward Snowden. Évidemment, la procédure d'alerte n'est pas adéquate. Mais il y a beaucoup d'autres faits de moindre importance qui pourront être dévoilés à la faveur de cette procédure si celle-ci est convenablement mise en place.
En 2018, doit aussi être transposée en France la directive européenne sur le secret des affaires, secret auquel ne sont pas soumis aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il y a, dans ces nouveautés législatives, un risque de voir amoindri les avancées potentielles de cette loi ?
Alors, les lanceurs d'alerte ne sont tenus que par un secret absolu, s'agissant du secret de défense nationale, du secret médical et du secret des avocats. Pour le reste, ils peuvent passer outre ce secret légalement protégé. Et on a dans cette directive, effectivement, une règle qu'on peut résumer, le secret et la règle, le signalement et l'exception, avec quelques interstices pour les lanceurs d'alerte. Il ne faudrait pas, effectivement, qu'à la faveur de la transposition de la directive secret des affaires, le pouvoir de signalement des lanceurs d'alerte soit restreint.
Qu'est-ce qui se joue là finalement ? C'est le statut, le droit à l'alerte ?
C'est l'étendue des faits qui peuvent être signalés. Il faut qu'il soit clair que dans certaines circonstances, le lanceur d'alerte doit aussi pouvoir passer outre au secret des affaires.
Malgré ces avancées de la loi, on voit que le fait de signaler ou de donner l'alerte reste une démarche qui engage personnellement chacun, les lanceurs d'alerte, avec souvent à la clé des conflits judiciaires qui sont lourds, longs, chers, avec aussi des grandes difficultés aujourd'hui d'emploi, des difficultés financières et psychologiques pour de nombreux lanceurs d'alerte. On l'entendait encore dans les journaux ce matin. Est-ce que de ce point de vue-là, la loi Sapin 2 va changer des choses ?
Alors, aucun lanceur d'alerte jusqu'à présent n'est sorti indemne d'avoir eu le courage de dire la vérité. La loi Sapin 2 va aménager la situation du point de vue de la procédure civile, la procédure de licenciement, va permettre de sanctionner les mesures de rétorsion. Mais ce que je regrette beaucoup, c'est la censure du Conseil constitutionnel sur un volet important de la loi Sapin 2. Le défenseur des droits avait la possibilité d'accorder des subsides aux lanceurs d'alerte, soit pour se défendre devant la justice, soit s'il en avait la nécessité, du fait par exemple de se trouver en difficulté ou au chômage, eh bien le Conseil constitutionnel pour des motifs qui sont très discutables, mais le Conseil constitutionnel a censuré sa disposition.
Comment vous expliquez-vous cette censure du Conseil constitutionnel ?
Alors, d'un point de vue juridique, ça n'existait pas dans la Constitution. Mais je pense que, au-delà de ça, il faut rappeler que le lanceur d'alerte est toujours gêneur, quelque part. Il dévoile la part d'ombre d'un système, d'une entreprise, d'une société. Et de ce point de vue, il n'est pas forcément le bienvenu partout.
Merci beaucoup Eric Halt d'avoir été l'invité de ce journal de 12h30. Je rappelle que vous êtes magistrat, vice-président de l'association Anticor pour anticorruption, administrateur également de Sherpa, autre organisation qui œuvre dans ce domaine. Bonne journée à vous. Merci également à Catherine Pétillon du service économie de France Culture qui menait cette interview. Une accalmie enfin sur le front de la météo. La tempête Carmen s'évacue par la Corse où le vent continue à souffler fort, mais ailleurs c'est un temps certes maussade et pluvieux, mais bien assagi qui domine. Les températures cet après-midi affichent 3 degrés sur les Alpes, 7 sur le Grand Est et les Hauts-de-France, 8 en région parisienne, jusqu'à 14 degrés sur la façade ouest et 15 prévus à Nice cet après-midi. Ce journal était réalisé par Yacine Bouzard. À 18h, c'est Aurélie Kiefer que vous retrouvez à ce micro sur l'info pour l'info sur France Culture.